L'année 2021 n'a pas été de tout repos, on doit se le dire partout, je pense, dans l'ensemble du Québec, dans l'ensemble du Canada même, si on parle aussi avec Mme Gill. Mais pour ce qui est de la Côte-Nord, on va pouvoir se concentrer sur les enjeux de l'année, les grandes lignes, les dossiers qui ont retenu notre attention pendant cette année-là, avec Mme Micheline Anctil, préfète de la Haute-Côte-Nord, mairesse de Forestville, et Martin Ouellette, député dans René Lévesque. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
J'imagine que je ne me trompe pas quand que je dis que ça a été une grosse année, la 2021, pour chacun de vous, j'imagine. Hein?
Ça a été une année très exigeante, je dirais même au quotidien, hein, des adaptations à tous les jours au niveau des municipalités, hein, tout le monde municipal, les directives au niveau des loisirs, la gestion du télétravail, pour ne nommer que ces éléments-là,
ouais,
nous demandaient des adaptations à tous les jours. Alors, les capacités d'adaptation ont été mises à rude épreuve.
Mm-hmm. Pour vous aussi, hein, M. Ouellette?
Absolument, et on le vit encore dans ces temps-ci, là, la présence du virus Omicron nous amène aussi à redoubler de prudence. Donc, ça a été un peu d'espoir pendant l'année, un peu de resserrement, un peu d'espoir à l'été, un peu de resserrement. Et là, on arrive au temps des fêtes et on attend la suite là, pour connaître un peu la situation pandémique sur le territoire du Québec, mais aussi sur la Côte-Nord. Donc, oui, comme Micheline le disait, beaucoup d'adaptabilité. Nous, on a repris le travail à l'Assemblée nationale. On a repris quelques rencontres en présentiel aussi en circonscription. Les gens étaient contents de nous voir. On était contents de les voir aussi. C'est beau, les écrans, c'est le fun. Mais en politique, Micheline, on peut le dire aussi, on aime bien rencontrer les gens. Et d'autant plus que Micheline, c'était son année électorale cette année aussi.
Mm-hmm.
Donc, une année électorale en pandémie, c'est tout à fait différent. Je ne sais pas si j'aurai l'opportunité ou le privilège, disons-le comme ça, de faire une campagne en temps pandémique. J'espère le moins possible, mais mm-hmm. ça l'a amené à changer les choses et ça a amené aussi les gens à avoir un tout autre œil sur notre travail.
Oui, et les dossiers, en fait, qui ont retenu l'attention, pandémie ou pas, je pense dans la campagne électorale, ça a été un sujet aussi qui a été fortement abordé sur la dévitalisation du territoire. On sait que la Haute-Côte-Nord fait partie, n'est pas une exception. Il y a eu l'assurance-emploi aussi, le trou noir, cette réalité-là aussi qui a fait beaucoup discuter. Il y a des projets tranquillement. On sait que du côté de Sacré-Cœur, on essaie vraiment de bâtir quelque chose pour essayer d'amener une population. Même principe pour d'autres municipalités. Selon vous, c'est quoi les solutions ou qu'est-ce qui peut arriver pour essayer de retenir, en fait, les gens en Haute-Côte-Nord?
Je vous dirais, dans un premier temps, il y a un facteur que je considère qui doit être mis au premier plan, c'est de faire reconnaître qu'en Haute-Côte-Nord, notre économie est saisonnière. Mmh. Et ça, on ne pourra pas changer les choses. Exploitation de la forêt, des pêches, du tourisme, tout le monde maritime, ça va toujours demeurer du saisonnier. C'est certain qu'à l'intérieur de ces secteurs d'exploitation-là, il faut trouver des façons de prolonger les saisons, que nos gens travaillent davantage. Parce que comment on peut être attractif? Hein, la main-d'œuvre aujourd'hui, là, c'est un enjeu pour tous les milieux, tous les mm-hmm. secteurs d'activité. Et les travailleurs, ils peuvent aller partout. Ils ont le choix d'aller partout. Alors, nous, en Haute-Côte-Nord, si on veut être attractif et qu'on a comme offre de service, je pense le plus positif, c'est qu'on a des milieux de vie exceptionnels. Mais il en reste pas moins que l'important, c'est aussi de travailler le nombre de mois le plus grand dans l'année. C'est l'emploi qui va être attractif. Puis par la suite, mais les gens, on va faire de la rétention des familles et des professionnels et par le fait que c'est une belle qualité de vie. Mm-hmm. Alors, moi, je pense qu'il y a cette reconnaissance-là au départ qu'il faut obtenir du gouvernement pour obtenir un regard, une aide. Puis quand je parle de l'aide, ça ne veut pas juste dire d'investir des capitaux. Et il faut reconnaître des façons de faire, expérimenter des nouveaux projets pour faire en sorte qu'on soit attractif, qu'on se démarque et qu'on puisse à ce moment-là aussi améliorer notre économie saisonnière qui soit de plus en plus longue.
Et je rajouterais, si tu me permets, Micheline a raison, on a une économie saisonnière en Haute-Côte-Nord, mais il faut aussi renforcer le tissu économique qui existe aussi, qui est essentiel. Tout le travail que j'ai fait avec Bois-Saco pour l'avenir de la forêt, on sait qu'il y a eu le report du plan pour le caribou forestier. Ce plan-là avait un impact tel qu'on le connaissait sur les opérations forestières de Bois-Saco. Bois-Saco veut plus de prévisibilité aussi à long terme avec le calcul de la possibilité forestière. On y travaille aussi. J'ai rencontré Bois-Saco. J'ai rencontré le ministre aussi à ce sujet-là juste avant de quitter l'Assemblée nationale. Donc, si on veut offrir à la Haute-Côte-Nord de la, je vous dirais, du développement économique, il faut pallier les deux. Les industries qui sont fortes et qui offrent du travail à l'année, il faut leur donner des perspectives d'avenir. Et comme Micheline le dit, il faut tenir compte aussi d'une particularité, d'une économie saisonnière dans le tourisme. Et ça a quand même bien été, le tourisme, cet été. On a eu la visite de plein de gens dans plein de nos attractions. Mais encore faut-il qu'on ait la main-d'œuvre et qu'on ait les capacités, d'être attractifs pour les retenir. Et c'est ça, je pense, un peu le grand défi. Et Michel va être d'accord avec moi. Un des grands défis qu'on a eu ensemble l'année passée et qu'on aura encore l'année prochaine, Sophie, c'est les transports. Si on veut occuper le territoire, il faut être capable de s'y déplacer. Vous m'avez entendu parler beaucoup du transport aérien, mais moi et Micheline, il y a un combat qu'on n'a pas terminé de mener. C'est les traversiers du côté de Forestville et Rimouski. Pour nous, c'est fondamental. Alors, quand Micheline dit que la Haute-Côte-Nord doit être traité d'une façon particulière, mais c'est ce genre d'attention-là qu'on voudrait du gouvernement lorsqu'on a enfin, affaire avec des enjeux de transport, qu'on ait une attention particulière à nos propres réalités.
Ouais, le transport maritime a fait couler beaucoup d'encre en 2021. Il y a eu des bris, il y a eu des difficultés, il y a eu une attente encore une fois dans la saison estivale qui a été retenue dans les médias. Il y a un côté positif de tout ça avec la dévitalisation en sachant que la pandémie a fait connaître la Côte-Nord, mais somme toute, pour s'y rendre, des fois, c'est assez malheureux. Comment ça se procède. Et récemment, on a aussi compris justement que le gouvernement n'allait pas financer ceux qui sont complémentaires, les traverses complémentaires, Rimouski, Forestville, Trois-Pistoles, les Escoumins. Qu'est-ce qui en est concrètement de ce dossier-là à l'heure où on se parle dans un dossier que vous portez les deux à bout de bras?
Dans un premier temps, je vous dirais, vous avez parfaitement raison, la Côte-Nord a des richesses. Elle a du territoire à faire connaître et elle est capable de se démarquer. Le premier des éléments, c'est d'y avoir accès. Alors, l'accès à la Côte-Nord, et là, ça vient croiser plusieurs dossiers. On ne le réglera pas aujourd'hui, mais c'est le pont sur le Saguenay, c'est prioritaire, c'est majeur comme accès à la Côte-Nord. Le transport aérien, il y a déjà des communautés là, qui en parlent. Nous, dans le transport maritime, on a une organisation de service qui est particulière et c'est ça qu'on veut que le gouvernement le reconnaisse. C'est-à-dire que le traversier Forestville-Rimouski, c'est une entreprise privée. Okay? Puis là, on le sait que la Société des transports, la Société des traversiers ne souhaite pas d'ailleurs l'acquérir. Donc, on va demeurer de façon privée. Bon, soit, c'est une voie quand même à suivre, mais on ne baisse pas les bras par rapport à ça. Il y a d'autres façons aussi que le gouvernement, que le ministère des Transports peut nous reconnaître dans la nécessité de l'accès, que ce service-là doit absolument être disponible à nos populations, à nos entreprises. Alors, c'est sur la table de travail, puis en fait, l'objectif, c'est un retour d'un traversier au printemps. Et les options, il faut les regarder. Puis on veut travailler avec le ministère des Transports pour trouver une solution qui soit rentable, qui soit pérenne. Et on a vu quand le traversier cette année, quand M. Journeau a décidé de ne pas reprendre le service pour une année, on a vu la conséquence concrètement des annulations de camping, de la restauration, etc. Alors, puis il ne faut pas parler juste d'un traversier, le Forestville-Rimouski, il faut voir qu'est-ce que c'est le rayonnement. Alors, c'est 1 heure d'aller à Rimouski et on accueille à ce moment-là des gens qui arrivent de Baie-Comeau, de cette île, qui donnent accès au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Charlevoix. Donc, il faut positionner cet accès-là avec tout ce que ça signifie comme rayonnement humain, hein, social, mais économique. Et c'est cette attention-là qu'on veut obtenir du gouvernement. Puis effectivement, Martin est au premier plan pour défendre les intérêts de nos communautés à cet effet-là.
Donc, on est toujours en mode solution. On est de regarder tous les transporteurs privés qui seraient intéressés. Si M. Journeau veut encore opérer avec un autre traversier, nous, on n'a pas de problème. Ce qu'on veut, moi puis Micheline, c'est qu'on soit capable de traverser nord-sud de façon fréquente. Et ça, c'est bon pour les deux économies. Et imaginez les gens du Bas-Saint-Laurent qui embarquent sur le traversier, qui viennent visiter nos pourvoiries en juin ou à l'automne. C'est bon pour notre économie locale. On a besoin de ça. Et c'est ça qu'on fait valoir. Et c'est ça qu'il faut pas laisser tomber. Et là, il faut Gautier, la STQ a un service à donner. Mais nous, en Haute-Côte-Nord, ce service-là est complémentaire, mais nécessaire. Et je pense que c'est là la clé que Micheline a toujours dit dans toutes les entrevues qu'elle a données. Il est nécessaire pour nous d'avoir ce lien-là. Il y a des gens de la Haute-Côte-Nord, mais de Baie-Comeau aussi, qui prennent le traversier pour aller avoir des soins spécialisés de l'autre côté, du côté de l'hôpital à Rimouski. Et donc, c'est des facilitants. Puis, je croise à ça encore des billets d'avion extrêmement chers. Donc, si on a un bateau moins cher, qui nous prend juste une heure, ben ça devient, dans ce cas-là, une alternative intéressante. Et on est capable de faire aller-retour dans la même journée.
Mm-hmm. Parce que, justement, le transport aérien, il y a des milliers de dollars qui sont investis du côté de Forestville, entre autres, pour la réfection de cet aéroport-là. Mais un billet d'avion reste tout de même très, très, très cher pour les gens qui désirent se déplacer, justement. Là.
Un grand projet local qui s'inscrit effectivement dans les transports aériens. Fait que là, il faut le voir à deux niveaux. Nous, c'est quand même ici l'aéroport local qui est très, très important d'ailleurs au niveau du développement économique de nos entreprises. Puis, bien sûr, il y a l'ensemble de la mobilité des personnes avec les plus grands aéroports comme évidemment Manicouagan et Sept-Rivières et la Basse-Côte, hein, où c'est le moyen de se déplacer. Alors, nos enjeux sont un peu différents, mais c'est quand même le transport aérien de tous, là.
Et dans le fond, pour par la suite, vous m'amenez aussi avec le transport aérien, transport maritime, qui devient aussi une nécessité pour le secteur de la santé, pour le système de la santé en Haute-Côte-Nord. Oui, il y a une pénurie de personnel. Des fois, les effectifs doivent être diminués. Si on parle plutôt des centres en Haute-Côte-Nord, du côté de Les Escoumins, du côté de Forestville, comment ça se passe? Comment s'est passée l'année 2021 dans ces deux édifices-là?
Ben, c'est un secteur que je connais bien. Je vous dirais que je leur lève mon chapeau à tous les jours. Oui. Faire face à la pandémie, ça a été pour eux vraiment très, très, très exigeant. Puis j'entends très bien là, tous les messages, hein, de faire attention à notre santé. Puis le monde municipal, les élus, on a travaillé étroitement d'ailleurs avec la santé publique pour faire des messages à nos populations pour protéger le système de la santé et les travailleurs qui sont à l'intérieur. Parce que ils vivent la problématique de la pandémie, mais croisée en plus avec la problématique de la main-d'œuvre. Alors, c'est certain que le défi est très, très grand. Maintenant, le message que je veux laisser, c'est que nous, au niveau des élus, c'est de première importance d'avoir ces services de proximité, de les maintenir et voire même de les développer. Et les services doivent évidemment continuellement s'adapter aux besoins changeants de nos populations, mais c'est un des éléments d'attractivité fort important de pouvoir garantir des services de santé de proximité. Alors, c'est certain qu'au niveau des élus, on veut travailler en étroite collaboration parce qu'on ne veut pas d'atteinte à ces services de proximité. Au contraire, on veut les maintenir et même les développer.
Et c'est pour ça, Anne-Sophie, qu'on est obligé d'intervenir et j'ai intervenu auprès du ministre de la Santé lorsque nous avons appris que malheureusement, la Côte-Nord était privée de 8 de ses médecins qui étaient attendus dans la région alors que notre taux de placement était bon pour 2020-2021. Et on se rappelle aussi l'initiative qui a pris naissance en Haute-Côte-Nord, ces fameux week-ends là, de formation qui permet aux gens qui sont dans les facultés de venir voir quelles seraient des opportunités de travail à l'intérieur même du réseau, mais dans des régions comme la Haute-Côte-Nord. Alors, c'est pour ça qu'on a reçu ça comme une claque en plein visage et on comprenait pas, et le ministre n'était pas capable de me trouver une seule raison potable m'expliquant pourquoi c'était bon de sortir des médecins de la Côte-Nord pour les envoyer ailleurs. On a aussi, nous, nos propres délais pour avoir accès à un médecin de famille. Et ça, c'est fondamental pour toute population qui veut s'installer. Michel faisait référence à des services de proximité, mais on veut aussi des professionnels accessibles aussi. Et ça, ça passe par les médecins de famille. Donc, c'est tout ça qu'on doit prendre en considération. Et la population de la Côte-Nord est plus vieillissante qu'ailleurs dans certaines parties du Québec. Donc, demande des soins, demande effectivement un suivi. Et c'est pour ça que pour nous, il est fondamental qu'on retrouve ce qu'on avait minimalement par le passé, c'est-à-dire aux alentours entre 18 et 20 postes qui nous étaient offerts et qui amenaient des médecins à venir opérer et travailler en région. Et dans certains cas, on était capable d'y retenir. Ils fondaient une famille, ils venaient s'installer, ils participaient à la communauté. C'est ça qu'on veut, c'est ça que les élus veulent pour la Haute-Côte-Nord.
Mm-hmm. Évidemment. Allez-y, Mme Anctil.
Vous savez, au niveau de la santé, là, les preuves ont été faites que les services de première ligne que nous avons dans nos communautés, par exemple en Haute-Côte-Nord, ces services-là, quand ils sont accessibles et qu'il y a un suivi, là, ça fait toute la différence dans la prise en charge rapide, hein, précoce, je veux dire plutôt, de la maladie. C'est souvent, 80% des situations peuvent se régler à ce niveau de première ligne au lieu d'aller vers les services spécialisés. Mais si ces services-là sont pas là, les populations se dirigent vers un service plus lourd, plus coûteux, qui sont les services spécialisés. Alors, c'est un investissement, les services de première ligne. Il faut le voir de cette façon-là. Et je réclame haut et fort, moi, le droit à ce service-là. Quand j'entends dans d'autres régions du Québec, où on fait appel au ministre parce qu'on va faire 30 minutes, 20 minutes pour avoir accès à un service. Bien, sur la Côte-Nord, là, on fait une heure d'accès à un service, puis on le fait depuis toujours. Puis quand on réclame haut et fort qu'on veut le maintenir, bien, on n'est pas certain si on va nous le garantir. Mais vous savez qu'une heure de déplacement routier avant d'avoir l'ambulance, etc., ça peut changer l'issue d'une urgence.
Mm-hmm.
Alors, je pense qu'il y a des droits dans ça. Il y a des choses qui sont acceptables, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et je pense qu'il faut le redire, nos populations ont le droit d'avoir des services de proximité.
Oui, et ce sont des dossiers qui ont fait jaser. On comprend encore une fois dans ce bilan-là qu'il y a des dossiers qui ne sont pas conclu, mais qui continue d'être travaillé par vous deux, entre autres. Si on parle des réalisations qui ont été faites en 2021, respectivement, pour chacun de vous, là où les réalisations dont vous êtes le plus fiers pourraient se définir par lesquelles ou lequel?
Bien, je dirais, en 2021, on a fait une belle campagne électorale.
Oui!
dans un contexte de pandémie qui n'a pas été pas évident au niveau des moyens qu'on a habituellement, où on se serre les mains, mais là, on se donnait un coup de coude. Mais on a été très présents, je suis très fière de l'équipe qui est en place, du côté de Forestville, évidemment, et la population que je remercie, nous a vraiment donné un signal très, très clair. Hein, les 89,4%, c'est un résultat assez exceptionnel. Je dirais au niveau de la MRC aussi, je suis très fière au cours de la dernière année de toutes les ententes spécifiques que la MRC a conclues avec les différents ministères pour faire en sorte, Martin en parlait au départ, que nous devons soutenir nos entrepreneurs, nos entreprises existantes, nos industries et la MRC, donc par ses ententes spécifiques, fait en sorte que beaucoup d'argent s'amène pour venir supporter les entreprises existantes, l'innovation des jeunes entrepreneurs qui voudraient se lancer, des entreprises qui ont besoin de la relève. Alors, la MRC a en main des fonds pour 2022 qui fait en sorte qu'elle va pouvoir aider le milieu vraiment dans sa prise en charge et son avenir. Alors, je suis fière d'avoir participé à ces négociations-là. Puis, on a encore beaucoup de négociations, des beaux grands projets sur la table pour l'avenir.
Mm-hmm. Et vous, M. Ouellet, on sait que l'an prochain, ce sera élection dans votre cas, mais les réalisations pour 2021, c'est lesquelles dont vous êtes le plus fier?
C'est d'avoir été toujours en mode solution lorsque les gens nous amenaient un dossier puis que finalement, le gouvernement nous disait tout simplement non. Je vais vous en nommer deux exemples.
Oui.
Le ministère des Transports nous a annoncé qu'il ne financerait pas deux travaux importants de réfection de pont pour permettre à notre TQ3, notre route trans-québécoise de motoneige, d'être complétée en haut de Longue-Rive, mais aussi du côté de Forestville. Donc, rapidement, avec Micheline, avec les élus, avec les gens en place, on a fait des comités, on s'est parlé régulièrement, on a fait des représentations. Tout le monde devait mettre un peu de l'eau dans son vin. Tout le monde devait trouver un peu d'argent aussi. Forestville, la MRC, la Fédération des clubs quad, des motoneiges. Bref, ces discussions-là ont duré à peu près 2 mois pour en arriver à une conclusion que oui, finalement, tout le monde a trouvé la solution gagnant-gagnant. J'ai réussi à convaincre le ministère des Transports de mettre 20 000 $ pour s'assurer qu'on puisse réaliser tout ça. Et pour moi, c'était fondamental. Forestville et la Haute-Côte-Nord ne pouvaient pas ne pas être connectés avec la TQ3 vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean parce qu'il y a plusieurs de nos motoneigistes qui viennent parcourir la route blanche et ça fait partie, comme Micheline le disait tout à l'heure, de cette possibilité qu'on a de grandir nos saisons touristiques et de permettre une meilleure activité économique. Alors ça, j'en suis bien fier puisqu'on a travaillé les soirs, les fins de semaine pour que tout le monde trouve la bonne solution. La deuxième, elle touche moins présentement la Haute-Côte-Nord, mais elle va toucher incessamment. Vous savez que la COVID, plusieurs personnes ont vécu ça de façon plus difficile. Il y a une augmentation de l'itinérance sur la Côte-Nord. On la voit moins ailleurs qu'au Québec et à Montréal, mais elle est présente. Et on a une organisation, la résidence Saint-Joseph du côté de Baie-Comeau, qui accueille des gens qui sont en situation d'itinérance. Et j'ai aussi réussi à convaincre à la dernière minute le ministre Lionel Carman de nous donner un budget discrétionnaire rapidement pour faire face à l'augmentation de la demande en itinérance pour la résidence Saint-Joseph. Et je travaille avec le CIS pour que rapidement les sommes promises par Québec puissent être délivrées sur le territoire. Et si on en aurait besoin d'une résidence de ce type-là pour des gens issus d'une clientèle issue d'itinérance, pardon, du côté de la Haute-Côte-Nord, ben on a déjà des infrastructures disponibles pour aller rapidement. Donc, ce qui me rend le plus fier, c'est que même si on a une problématique complexe où on se fait dire non, je lâche pas et je lâcherai pas. Et avec les élus, avec Micheline et tout le monde, j'agis des fois à titre de facilitateur, mais il faut trouver une solution. La Côte-Nord fait face à des nombreux défis et c'est à travailler ensemble qu'on réussit. Donc, pour moi, c'est ma plus grande réalisation d'avoir mis tout le monde auprès des mêmes enjeux pour qu'on trouve une solution gagnant-gagnant. Et ça, j'en suis bien fier.
Dans les deux cas, on comprend aussi qu'il y a beaucoup de dossiers dont, justement, vous arrivez à une réponse qui est non, mais il y a un travail qui est fait et on finit par avoir une solution. Donc, c'est beaucoup d'espoir pour 2022. Il ne me reste pas beaucoup de temps puisqu'on est en Zoom, notre temps est un petit peu plus limité. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre temps d'avoir fait un bilan rapide. Évidemment, on aurait pu l'allonger parce qu'il y avait beaucoup de dossiers, beaucoup de discussions à faire, mais ça fait un beau résumé pour l'avenir aussi. Et à chacun de vous, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes.
Merci beaucoup.
Merci à toi. Merci à vos auditeurs.